VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En République démocratique du Congo, journée de mobilisation de l'opposition ce vendredi à Kinshasa et dans plusieurs autres grandes villes du pays, comme Goma et Bukavu dans les deux provinces du Kivu et Bunia dans le nord-est. Les participants à cette marche de protestation manifestent notamment contre le système de vote prévu le 23 décembre lors des scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux. Et ce, à la veille d'un grand meeting électoral à Kinshasa de la coalition au pouvoir. Plus de détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire dans la capitale congolaise.
L'opposition, qui a promis de se désigner un candidat commun à la présidentielle avant le 15 novembre prochain, entend par cette marche dire non à l'utilisation de la machine à voter lors des élections du 23 décembre prochain et exiger avant ces élections un nouveau nettoyage du fichier électoral. Au lendemain de cette marche, la coalition au pouvoir battra à son tour le rappel des troupes à la faveur d'un meeting prévu au mythique stade Père Raphaël de Kinshasa. Ce rassemblement va consacrer la sortie officielle du Front commun pour le Congo, qui présentera à l'occasion son candidat à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadary. À un mois du début de la campagne électorale, l'opposition et la majorité auront donc l'occasion de tester leur popularité dans la capitale. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Élection au Cameroun, l'Union européenne a exhorté le président Paul Biya, réélu pour un septième mandat à la récente présidentielle dans son pays, à prévenir des troubles post-électoraux et à unifier le pays grâce à un processus de dialogue avec tous les acteurs politiques. Les résultats officiels de l'élection présidentielle du 7 octobre ont été proclamés lundi dans un contexte sécuritaire tendu après un scrutin marqué par une faible participation, des accusations de fraude massive et des manifestations de violence. Selon les résultats donnés par le Conseil constitutionnel dominé par des fidèles de Paul Biya, le chef de l'État a été réélu avec 71,3% des suffrages. Au Congo, Brazzaville, la justice a ouvert dans la capitale hier le procès de 6 policiers accusés d'homicide involontaire dans l'affaire des 13 jeunes décédés fin juillet dans un commissariat de police de la métropole congolaise. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Les 6 prévenus mis aux arrêts peu après la mort des jeunes la nuit du 22 au 23 juillet dans le commissariat de Chakoma au quartier Mpila sont poursuivis pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Dans cette affaire, l'État congolais s'est aussi constitué en partie civile. Les avocats des victimes et ceux de la défense ont demandé au tribunal de reconsidérer le rôle de l'État. Il n'a pas souffert de préjudices occasionnés par les prévenus, les policiers qui sont ses préposés. Il faut plutôt le placer dans le statut de civilement responsable, a déclaré maître Yvon-Éric Ibouanga, un des avocats des victimes. Pour la défense représentée par maître Nestor Obambé, il y a la théorie du cumul de responsabilité. Un préposé ne répond pas des actes qu'il pose quand il est en service, c'est l'État qui est responsable. Le tribunal doit examiner cette demande. La prochaine audience est prévue pour le 8 novembre, rappelons qu'après ce drame, le gouvernement congolais avait accordé 2 millions de francs CFA par famille pour l'enterrement des victimes. Dans un rapport publié en septembre, l'Observatoire congolais des droits de l'homme a indiqué que ces jeunes avaient été torturés et exécutés au commissariat de police.
Au Tchad, sommet extraordinaire jeudi à N'Djamena, des chefs d'État et de gouvernement de la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. De N'Djamena, le compte-rendu de notre correspondant André Kodmajinga.
Convoqué à N'Djamena par le président en exercice de la CEMAC Idriss Déby Itno, cette conférence a permis aux dirigeants de la sous-région CEMAC de revoir les dérapages budgétaires afin de sauvegarder leurs relations avec les partenaires financiers. Pour le président de la commission de la CEMAC, Daniel Ona Ondo, 2 ans après l'adoption d'une série de mesures à Yaoundé au Cameroun pour faire face à la crise économique induite par la chute du cours du pétrole, les résultats restent en deçà des attentes. Cette situation suscite de fortes inquiétudes sur les partenaires financiers qui attendent des réponses claires aux dysfonctionnements fonctionnement de l'économie pour accompagner les États membres vers une sortie de crise. Daniel Ouanaondo invite la République du Congo et celle de la Guinée équatoriale à conclure urgemment les programmes économiques et financiers avec le FMI afin d'éviter les risques des passagers clandestins. Il ressort du communiqué final la réforme de la Banque du développement des États de l'Afrique centrale. Aussi, les dirigeants de la sous-région sont-ils résolus à intensifier des actions visant à éliminer la menace terroriste dans le bassin du lac Tchad, tout en encourageant les États membres à faire respecter la convention régissant l'Union monétaire de l'Afrique centrale et la réglementation d'échange en vigueur en vue de favoriser le rapatriement intégral de recettes d'exportation. Les chefs d'État réitèrent leur engagement en faveur d'une sortie de crise coordonnée, concertée, maîtrisée et solidaire. André Godmadingar Ndjamena, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Archipel des Comores dans l'océan Indien, le gouverneur de l'île comorienne d'Anjouan, Abdou Salami Abdou, a été placé sous mandat de dépôt pour participation à un mouvement insurrectionnel à la suite des affrontements de la semaine dernière entre un groupe de rebelles et l'armée. C'est ce qu'annoncent des sources judiciaires ce vendredi. Le gouverneur est poursuivi pour atteinte à l'unité nationale, participation à un mouvement insurrectionnel, complicité de meurtre, rébellion, port illégal d'armes et trouble à la sécurité publique, selon l'acte d'accusation établi par la juge Noura Hussein. Le gouvernement sera jugé par la Cour de sûreté d'État. Il est assigné à résidence depuis le 21 octobre. Actualité aux États-Unis maintenant, l'enquête sur les 10 colis piégés adressés à des personnalités démocrates et à des détracteurs du président Donald Trump se concentre désormais sur la Floride. Des colis suspects ont été envoyés notamment à l'acteur Robert De Niro et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. Dans la foulée, le président Trump a accusé les médias d'être en grande partie responsable de ce qu'il a appelé la colère au sein de la société américaine. Ces colis qualifiés de potentiellement explosifs peuvent-ils influencer les élections de mi-mandat du 6 novembre et le bras de fer entre l'opposition démocrate et les républicains qui contrôlent la Maison-Blanche et le Congrès? Pour une analyse, Claire Morin-Gibault a joint l'ancien diplomate et président de Global Situation Room, Brett Bruen.
Malheureusement, je crois qu'on voit des deux côtés certains avantages. C'est-à-dire, il y en a dans le parti républicain qui vont dire qu'il faut aller voter pour empêcher ce type d'action. Et il y en a un côté démocrate qui vont dire nous avons besoin de changer le gouvernement, alors on va aller voter. Je crois que nous restons dans cette même division qui existait auparavant. Le problème, c'est que la distance entre les deux côtés, c'est beaucoup plus loin.
D'une certaine façon, cela renforce les extrêmes de chaque côté?
On peut dire que ça renforce les extrêmes. On peut dire que même les voix extrêmes auront de puissance parce que dans ces moments de crise, on écoute plutôt aux voix qui représentent les préférences des uns et des autres. C'est-à-dire, dans les réseaux sociaux, on va voir que, comme ailleurs, certaines voix qui disent qu'il n'y a pas de preuves, c'est juste une chose que les démocrates ont inventée pour les aider. C'était le cas hier qu'une bonne partie des gens à l'extrême droite croyaient ces commentaires. À l'autre côté, on voit que les démocrates sont assez agressifs en mettant le doigt vers le président pour ses actions. Je crois qu'il faut en avoir plus de voix indépendante et il y a une certaine responsabilité au niveau de la presse pour ne pas créer ou ajouter à cet environnement. Mais en même temps, bien sûr, il y en a des journalistes qui se sentent assez vulnérables, assez en danger en ce moment. Et à cause de ça, je crois qu'il y en a qui voudraient trouver la façon par laquelle on pourrait changer cet environnement. Et si vous voulez, la presse est devenue un acteur dans ce drame.
L'ancien diplomate américain Brett Bruen, président de Global Situation Room. Affaire Jamal Khashoggi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce vendredi que le procureur général d'Arabie Saoudite était attendu dimanche à Istanbul dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Dimanche, les Saoudiens vont envoyer leur procureur général en Turquie. Celui-ci va rencontrer notre procureur général de la République à Istanbul, a souligné M. Erdogan lors d'un discours à Ankara, ajoutant que les autorités turques étaient en possession d'autres éléments de preuve liés au meurtre du journaliste. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.